à la fin du 19e siècle, qui avait observé qu'on pouvait colorer spécifiquement certaines cellules. Et il en a déduit que si on colorait ces cellules avec des molécules toxiques, eh bien on pourrait peut-être éliminer spécifiquement ces molécules toxiques. Et ça a été le point de départ de toute une famille d'antibiotiques. Actuellement, environ 60% des molécules utilisées en thérapeutique humaine ont une origine naturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement la molécule naturelle qui est commercialisée, mais très souvent, c'est une molécule qui dérive de molécules naturelles et qui a été optimisée pour son activité, pour ses effets, pour minimiser ses effets secondaires, etc. Et ces molécules d'origine naturelle, en général, sont très compliquées. Et s'il reste quand même un certain nombre de médicaments élaborés par synthèse totale, dès que les structures sont un peu complexes, et en particulier donc quand ce sont des molécules proches des molécules naturelles, eh bien, il est beaucoup plus avantageux de les préparer par ce qu'on appelle l'hémisynthèse plutôt que par synthèse totale. La synthèse totale, vous devinez, même si vous n'êtes pas chimiste, à quoi ça correspond. On prend du carbone, de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène, éventuellement du soufre et d'autres éléments, et puis on combine tout ça pour faire un arrangement moléculaire plus ou moins complexe. Ça veut dire un certain nombre d'étapes. Ça veut dire que si les rendements ne sont pas de 100% à chaque étape, ce qui est exceptionnel, eh bien la quantité de molécules que vous récupérez diminue au fur et à mesure du nombre d'étapes, et que par exemple pour une synthèse en 15 étapes, vous partez d'un kilo pour obtenir 1 g de produit à la fin. Donc ça peut coûter extrêmement cher. Par contre, si vous êtes capable d'isoler dans des plantes des molécules qui n'ont pas la structure voulue, mais qui ont une bonne partie de la structure voulue, vous pouvez, en les extrayant, les purifiant et en faisant ensuite un certain nombre de réactions chimiques, les transformer dans les molécules intéressantes. Et je vais illustrer ça. C'est ce qui s'appelle l'hémisynthèse. Donc, on ne fait qu'une partie de la synthèse. La nature a fait déjà une bonne partie du travail difficile. Et je vais illustrer ça par deux exemples. La première molécule dont je vais parler, c'est la progestérone, qui est une hormone sexuelle. Donc, qui favorise la fixation des œufs dans l'utérus chez la femme, dont vous avez ici la structure, je ne vais pas détailler, vous voyez qu'elle est constituée de 21 carbones, et vous voyez que le squelette ici ressemble pas mal au squelette du cholestérol. Le cholestérol, c'est extrêmement abondant, dans l'organisme humain, il y en a au moins 300 grammes. Donc vous voyez que toute cette partie-là de la molécule, avec ce qu'on appelle la stéréochimie, c'est-à-dire l'orientation ici des substituants, qui sont des groupes carbonés avec 3 hydrogènes, ce qu'on appelle les groupes méthyle, eh bien on les retrouve dans ce squelette-là. Donc on pourrait théoriquement imaginer une synthèse partant du cholestérol et arrivant à la progestérone, où il y aurait simplement enlevé cette partie de la molécule et transformé un petit peu cette partie-là. Mais il se trouve que le cholestérol, même s'il est abondant, dans cette partie de la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne latérale, cette partie est extrêmement peu réactive, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de chimie dessus. Donc c'est un mauvais produit de départ pour faire de l'hémisynthèse de la progestérone. Alors voilà l'historique des synthèses de la progestérone. D'abord, la progestérone a été isolée en 1934 par Schering et qui a obtenu 20 mg de cette hormone à partir de l'extraction de 625 kg d'ovaires de 50 000 truies. Donc ça vous donne une idée du travail, pas très ragoûtant d'ailleurs, et difficile au point de vue purification, surtout avec les moyens de l'époque. Eh bien, en 1940, alors vous imaginez que le prix était extrêmement élevé, la progestérone est très souvent utilisée, par exemple, pour éviter les fausses couches. Et dès 1940, Marker a réussi, en partant de ce qu'on appelle les sapogénines, qui sont des molécules à 27 carbones et qu'on trouve dans pas mal de plantes, à obtenir le squelette à 21 carbones qui nous intéressait dans le cas de la progestérone. Alors, voici, pour ceux qui ont quelques petites notions encore de chimie, le schéma synthétique, même si vous ne pouvez pas tout suivre. Vous allez voir que c'est quand même assez simple. Voilà la diosgénine qui est présente dans pas mal de plantes et qui peut être extraite à l'échelle de plusieurs kilos, plusieurs dizaines de kilos. Actuellement, il y a des champs de plantes qu'on exploite, on peut avoir des tonnes et des tonnes de diosgénine, ça ne coûte pas extrêmement cher. 27 carbones. Vous voyez que la chaîne latérale, si vous vous souvenez du squelette du cholestérol qui n'était pas réactive ici, porte des fonctions des atomes d'oxygène qui rendent la chimie beaucoup plus facile. Donc on la traite on fait une réaction avec de l'anhydride acétique et de la pyridine, deux réactifs extrêmement courants. On ouvre cette chaîne latérale. Ensuite, la deuxième réaction, c'est avec de l'anhydride chromique, qui est un oxydant très courant aussi. On coupe ici la double liaison, on coupe les liaisons entre ces deux carbones. Vous voyez apparaître ici le squelette qui est présent dans la progestérone. Ensuite, on élimine cette chaîne latérale. On obtient ce qu'on appelle une double liaison. On hydrogène et ensuite, on fait une saponification pour enlever ce groupe ici et on réoxyde et on obtient la progestérone. Donc vous voyez, ça fait une étape, deux étapes, trois étapes, quatre étapes, cinq étapes, toutes extrêmement simples et qui permettaient donc immédiatement d'avoir accès à la progestérone avec des quantités de plusieurs grammes. Avant Marker, l'extraction à partir des ovaires d'autrui avait été optimisée, faisait que la progestérone coûtait environ $80 le kilo. En 1949, on a découvert que l'igname mexicain contenait de très grandes quantités de diosgénine. Il y avait des extraits utilisés par les Indiens sous le nom de Barbasco comme poison pour tuer les poissons, pour empoisonner les flèches destinées à la pêche, et qui contient donc, c'est là où on s'est rendu compte que cette plante, l'igname mexicain, Cabeza de Negro, contient 10 fois plus de diosgénine que la plante qui avait été utilisée avant. Et l'optimisation de la synthèse dont je vous ai parlé a permis à ce moment-là d'obtenir de la progestérone à un tarif de $1,5 le gramme. Donc vous voyez une chute par 50 du prix uniquement parce qu'on a optimisé la plante et optimisé la synthèse. Ensuite, une boîte pharmaceutique Syntex a optimisé encore tous ces processus et finalement, la progestérone est tombée à $0,48 le gramme. Et en 1952, avec Upjohn, toujours en optimisant et la chimie et la source naturelle, a fait tomber le prix à $0,19 le gramme. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui devenait extrêmement acceptable sur le plan de la commercialisation. Ces prix vous paraissent peut-être extrêmement bas par rapport aux médicaments que vous achetez, Les stéroïdes, c'est extrêmement courant. La cortisone fait partie de la même famille et le prix de la cortisone, c'est extrêmement faible à la production. La pénicilline, ça doit coûter 10 euros le kilo à la production. Quand on l'achète, c'est un petit peu plus cher. Et quelquefois, les boîtes pharmaceutiques ont fait un petit peu de chimie autour pour optimiser les molécules, mais aussi pour obtenir une molécule nouvelle qui peut être brevetée et commercialisée. Donc, il y a des stratégies commerciales qui sont très importantes à côté de la chimie. Par des processus très voisins, on peut par exemple synthétiser l'œstrone, qui est une autre hormone stéroïdienne. Vous voyez, avec 1, 2, 3, 4, 5 étapes, toujours des étapes extrêmement simples. Donc, et avec d'assez bons rendements, donc des coûts très très bas, si bien que les hormones stéroïdiques actuellement sont des médicaments très couramment utilisés et très peu chers. L'histoire dit que pour $1 investi dans la chimie des stéroïdes, ça rapportait $1,000, c'est un profit économique assez intéressant. Et on compare ça avec une autre grande famille d'hormones, enfin de produits extrêmement actifs aussi, qui sont les prostaglandines, auxquelles les chimistes se sont beaucoup intéressés depuis 1975 à peu près. Et là, dans la famille des prostaglandines, même si on a trouvé des molécules extrêmement actives, le rendement est de $1,000 investis pour $1 de ressources après. Donc c'est exactement l'inverse. Donc vous voyez qu'il est très difficile au départ de savoir exactement quel va être le bilan financier de ce genre d'opération. Pour comparer l'hémisynthèse dont je viens de vous parler à la synthèse totale, Vous avez ici un chemin synthétique qui a été développé principalement par Roussel-Uclaf, de synthèse du norgestrel, qui n'est pas une molécule naturelle. Pour ceux qui se rappellent un petit peu, ici il y a une triple liaison, c'est comme l'acétylène. C'est un motif qui est assez rare dans les produits naturels. Mais le norgestrel est plus actif que la progestérone. Et vous voyez, il peut être synthétisé en 1, 2, 3, 4, 5 étapes aussi. Bon, il faut faire cette molécule avant. Ici, il y a une étape un petit peu délicate où on fait apparaître ce qu'on appelle un carbone asymétrique. C'est très élégant comme méthode. Ce composé est, la seule hormone ou pseudo-hormone stéroïdienne qui soit réalisée par synthèse totale. Tous les autres sont réalisés, y compris l'hydrocortisone, sont réalisés par hémisynthèse. Bon, je vais passer cette molécule-là parce qu'elle est trop compliquée et je pense que ce ne sera pas extrêmement intéressant. Et pour vous parler de la dernière molécule qui fait le succès de notre institut, qui est le taxotère. Cette molécule-là, vous voyez, très compliquée, ce n'est pas la peine de l'analyser, et qui est un voisin, qui est une molécule très proche du taxol, qui lui est un produit naturel. Vous voyez, il y a une petite différence ici, c'est une réaction chimique qui est assez simple à faire, et il y a une petite différence ici. Au lieu d'avoir un noyau benzène, ici, on a un noyau qu'on appelle oxytersobutyl. Et il se trouve que le taxotère est un intermédiaire de l'hémisynthèse du taxol. Je vais vous en parler dans un instant. Le taxol et les composés de la famille ont une activité anticancéreuse très importante. Et leur mode d'action est l'inhibition du désassemblage des microtubules en tubuline. Vous avez tous à l'école appris que lors de la division cellulaire, il se formait des espèces de fibres à l'intérieur de la cellule sur lesquelles les chromosomes se séparaient en deux groupes et ensuite la rupture se faisait par le milieu. Bien, ces fibres sont des polymères de tubuline et les molécules de la famille taxoïde empêchent la désagrégation de ces fibres. Si bien que ça bloque la division cellulaire au moment où les deux cellules doivent se séparer. C'est bien sûr cytotoxique. Alors, le taxol a été découvert à la fin des années 60 de l'écorce d'un if qui pousse dans l'Oregon, dans le nord-ouest des États-Unis, qui s'appelle Taxus brevifolia, et sa structure a été élucidée en 1969. Au cours des années 70, le NCI, donc le National Cancer Institute aux États-Unis, a procédé à un vaste criblage d'activités d'extrait de plantes, 35 000, in vitro et in vivo, pour trouver des anticancéreux. Il a trouvé 11 composés, dont le taxol, qui est ici. Donc c'est le principe actif de l'écorce de l'IF, et c'est aussi l'ensemble il y a des dérivés voisins aussi dans l'IF, et vous savez que l'IF est toxique, hein, que si les animaux mangent des feuilles d'IF, ben, ils en crèvent. Hein. Jules César le raconte dans la guerre des Gaules. Même dormir à l'ombre d'un IF était considéré comme mortel. Hein. Et à partir de 1979-80, quand le mode d'action a été révélé et les propriétés anticancéreuses, je dirais que presque tous les grands laboratoires de chimie au monde se sont attelés à la synthèse totale de cette molécule. Il a fallu attendre 91-92 pour que deux synthèses totales soient publiées par des très grands groupes américains. Et ils ont obtenu du taxol à l'échelle du milligramme, juste pour identifier qu'ils étaient allés jusqu'au bout. Pendant ce temps-là, il y avait une boîte américaine qui s'appelle Bristol-Myers, s'était lancée dans l'extraction du taxol à partir des écorces d'IF directement. Et vous voyez que le rendement est très faible, puisqu'il faut 5 kg d'écorce pour avoir 500 mg de taxol, en pelant complètement un IF qui a 100 ans. Et quand on pèle un IF qui a 100 ans, ben, il crève. Et donc, c'est terminé. Alors, les écologistes ont été alertés par ça, et le gouvernement américain a pris une décision d'interdire l'exploitation des IF de l'Oregon et de l'État de Washington. La synthèse totale dont je vous ai parlé fait entre 30 et 50 étapes avec des rendements tellement misérables qu'elle est industriellement inapplicable. Pour vous donner quelques repères, actuellement il y a une molécule qui est commercialisée ou qui va être commercialisée, je ne suis pas sûr qu'elle le soit complètement, et qui est synthétisée, qui est le résultat d'une synthèse totale en 43 étapes. C'est le record industriel. C'est un fragment de l'héparine, c'est la partie active de l'héparine c'est un très beau travail qui a été développé par les laboratoires Chauvet en France. 43 étapes, il a fallu optimiser toutes les étapes à 99% de rendement, puisque vous faites 0,9 à la puissance 43, vous verrez que ça ne fait pas grand-chose. Donc la Bristol-Myers s'est trouvée complètement piégée, a dû arrêter son projet Taxol puisqu'il ne pouvait plus l'extraire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, pas loin d'ici, à Gif-sur-Yvette, la commune de Gif voulait dédoubler la rue centrale. Certains d'entre vous connaissent le centre de Gif. Et la rue centrale a été dédoublée vers 1982 ou 3. En achetant une partie du parc du campus CNRS. Et ce campus, dans cette partie-là, comporte beaucoup d'ifs, mais l'if français qui s'appelle Taxus baccata. Et Pierre Potier, mon prédécesseur à l'ICSN, voyant ça, et qui s'intéressait au taxol déjà depuis un moment, et aux anticancéreux de façon générale, a récupéré tous les ifs qui ont été abattus, et les a pelés, coupés en rondelles, ramassé les feuilles, séchés, enfin on a cherché tout ce qu'on pouvait trouver dans l'if Taxus baccata. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, on a trouvé que dans les feuilles de l'IF européen, on trouvait cette molécule, vous voyez, qui est très proche du taxol. Il manque ici juste une fonction, et puis il manque sur cet oxygène ici une autre fonction, qui est ce qu'on appelle la chaîne latérale du taxol. Et alors qu'on trouvait 100 mg par kilo d'écorce dans le l'IF américain, on arrive à trouver 1 g par kilo d'écorce de cette molécule, donc 10 fois plus. Et ils se sont attelés, après avoir mis au point l'extraction et la purification, à la transformation de cette molécule dans cette molécule, ce qui, pour un chimiste normalement doué, ne semblait pas être un obstacle colossal comme l'était la synthèse totale. Alors vous voyez que la transformation est relativement simple. On protège ces fonctions alcool ici pour pas qu'elles réagissent dans les étapes suivantes. On fait un ester ici avec quelque chose de tout à fait banal qui est l'acide cinnamique. On introduit ici les deux fonctions oxygène et azote avec en plus la bonne stéréochimie, la bonne disposition dans l'espace. Et on enlève les groupes protecteurs. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 étapes. Avec des rendements relativement honorables. Le rendement total en taxol, disons en taxol, est de l'ordre de 20%. L'Institut a pris un brevet sur cette synthèse et Bristol-Myers s'est empressé de le copier pour s'approvisionner en taxol. Et c'était Aventis qui faisait le développement de ce brevet. Et Bristol-Myers s'est attaqué à Aventis pour copie de ses propres recherches. Le procès a duré une dizaine d'années. Bristol-Myers a proposé de transiger à 400 millions de dollars, ce qu'Aventis a refusé, et finalement Aventis a perdu son brevet. Je vous dirai plus tard comment, pourquoi, si ça vous intéresse. Donc voilà la synthèse du taxol ici. Le vrai taxol, c'est ça. Et comme intermédiaire dans la synthèse, nous avions ce composé-là, où le groupe ici n'est pas le bon groupe. Il faut l'enlever et remettre quelque chose pour avoir le taxol. Alors Pierre Potier a fait tester quand même l'activité de tous ces produits intermédiaires et il a trouvé que ce produit-là, qui est donc le taxoter, avec un groupe ici qui est différent du taxol et ici une fonction qui manque et donc qui est obtenue en 5 étapes, est 2 à 3 fois plus actif que le taxol et un spectre d'activité plus large en ce qui concerne les différents types de cancers. Donc c'est un produit qui est plus intéressant que le taxol. Et ce n'était pas un produit naturel, donc il pouvait être breveté en tant que molécule. Le taxol ne peut pas être breveté en tant que molécule, il y a simplement sa synthèse qui peut être débrevetée, parce que la nature l'a découverte avant les chimistes. Tandis que le taxoter est une molécule nouvelle, créée par l'homme, et donc pouvait être breveté. Donc Aventis a breveté, et l'Institut a aussi breveté ce composé, et Aventis a réalisé le développement de cette molécule, donc à partir de Taxus baccata jusqu'au taxotère. Et actuellement, ce médicament est commercialisé pour les cancers du sein, les cancers bronchiques, le cancer du cou et de la tête, maintenant aussi pour le cancer de la prostate et le cancer du poumon, non à petites cellules, je crois, enfin un type de cancer. Et le chiffre d'affaires, il est commercialisé dans le monde entier, et en particulier aux États-Unis où Bristol-Myers a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher la commercialisation. Maintenant, c'est le numéro 1 des anticancéreux. Et son chiffre d'affaires, cette série de transparents date d'une dizaine de mois, son chiffre d'affaires est actuellement de 2 milliards de dollars par an. Donc, en conclusion, je dirais que bien souvent, il est plus efficace l'hémisynthèse, donc qui est vous avez compris, l'identification, l'extraction et la transformation de molécules naturelles qui ne sont pas nécessairement actives. Dans le cas du taxol, c'est le cas, bien que la déacétylbacatine, qui est le produit qu'on extrait des feuilles, ce que j'ai oublié de vous dire, mais ça vous l'avez deviné, c'est que quand on coupe les feuilles d'un if, ça repousse. Donc il suffit de planter des ifs, il y a des plantations en Espagne, en Allemagne et en Inde, pour avoir suffisamment de feuilles. L'approvisionnement est pratiquement illimité. C'est différent de couper l'arbre et de replanter des ifs et d'attendre 100 ans. Donc, en général, la synthèse, l'hémisynthèse est beaucoup plus efficace que la synthèse totale pour ce qui est les molécules complexes. Il y a un point très important qui est ce qu'on appelle la pureté énantiomérique. Alors, vous savez peut-être que, en raison de la structure de l'atome de carbone, quand on met 4 substituants sur un carbone, ce qui est la configuration normale, il y a 2 arrangements possibles qui sont images l'une de l'autre dans la miroir, comme les mains. Et toutes nos protéines, tous nos récepteurs sont constitués par des molécules qui sont donc chirales. Hein, c'est une des 2 mains, si vous voulez. Et elles reconnaissent aussi des molécules chirales. C'est-à-dire que vous devez faire non pas une paire de mains en tant que molécule, mais une seule des 2 mains. Et il n'y en a qu'une des 2 en général qui est active. Et ça, c'est très difficile, c'est assez difficile, disons, à faire par synthèse totale. Si vous n'avez pas ce qu'on appelle l'activité optique, c'est-à-dire la chiralité, déjà au départ de votre synthèse, c'est difficile de l'introduire. On sait faire, mais c'est difficile de l'introduire. Et souvent, on perd la moitié. On synthétise les 2 mains en même temps et on en met une de côté. Donc, ça fait chuter de 50% le rendement d'un coup. C'est quand même assez important. Il faut avoir, bien sûr, des sources abondantes, fiables et renouvelables. Je crois que l'expérience du taxol et du taxotère le démontre bien. Il faut que les rendements d'extraction et de purification soient acceptables. Ça, c'est souvent un problème limitant. Il faut un produit de départ qui soit abondant dans la plante et pas trop difficile à purifier. Je dirais que le succès de ce programme à l'Institut est dû aussi au fait que nous avons un laboratoire qu'on appelle l'usine et qui est une espèce d'usine où on peut travailler sur des ballons de 200 litres et des colonnes ou des distillés, une centaine de litres de solvant. Ou pour purifier les produits, on fait ce qu'on appelle de la chromatographie. On fait passer les molécules à travers une colonne de silice poussée par un solvant et selon leur structure, elles passent plus ou moins vite. Eh bien, au laboratoire, on travaille sur des colonnes de 1 à 2 cm de diamètre. Dans l'usine, on a des colonnes de 25 à 30 cm de diamètre et de 10 mètres de haut. Donc, il fallait aussi l'équipement pour pouvoir réaliser ça. Et enfin, il faut peu d'étapes de transformation, puisque à chaque fois, le rendement fait qu'on perd du produit. Il y a aussi, bien sûr, des problèmes d'environnement, c'est-à-dire que plus vous avez d'étapes, plus vous polluez. Et plus ça coûte cher en solvant, et plus vous polluez, donc il faut réduire toujours au maximum le nombre d'étapes. Voilà, cette présentation m'a été... deux personnes m'ont beaucoup assisté pour réaliser cette présentation, Simon Arseniadis pour la progestérone, et Pierre Potier et son équipe, en particulier Françoise Guérit, qui a participé à cette aventure du taxotère et du taxol. Alors avant de... Je ne sais pas combien j'avais de temps, ça va? Je peux encore vous provoquer pendant 2-3 minutes. Alors je vais vous montrer des figures que vous pourrez retrouver sur le site du CNRS. Et quand je les ai trouvées, ça m'a un petit peu hérissé le poil, vous allez comprendre pourquoi. Ça se trouve dans le dossier valorisation, et ça rapporte le nombre de brevets. Ici, c'est le portefeuille de brevets du CNRS, selon les disciplines. Voici les sciences de la vie, les sciences chimiques, je ne sais pas trop ce que c'est, SPM, vous devez savoir, ça, c'est les STIC, SPI, etc., etc. Donc vous voyez que les sciences de la vie sont largement en tête en ce qui concerne les brevets, suivis par la chimie. Et si vous ne pouvez pas lire, mais si vous allez les lire, vous verrez que le texte fait l'éloge des sciences de la vie comme étant vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un autre schéma qui représente l'évolution du nombre de brevets aussi en fonction des années, avec les sciences de la vie en vert ici, les sciences chimiques en bleu et les autres sciences de technologie de l'information et de la communication. Et le commentaire est aussi que les sciences chimiques sont en train de diminuer par rapport à ce que c'était autrefois. Et que les sciences de la vie, c'est toujours vachement bien. Bon, ça, c'est pas la peine que je vous le montre. Vous le verrez quand même, ce sont les répartitions des ressources propres du CNRS. Voici les contrats de recherche et participation extérieure, mais là-dedans, il y a aussi tout ce qui vient des associations caritatives. Ce qui vient du privé, en fait, ne fait que 30%. Voici les redevances pour brevets et licences, les dons, les legs, les recettes diverses, les prestations de services, 4%. Et enfin, ça aussi, c'est les nombres de brevets figurés sous une autre forme. Attendez, que... Non, c'est ça. Et ici, ce sont les rentrées du CNRS sur ces brevets en tant que revenus. Alors, vous voyez que les sciences chimiques font 94,6% de tout l'argent que le CNRS touche sur tous ces brevets. Et là-dedans, le taxotaire, ça fait 94%. Hein, ça fait 50 millions d'euros par an à peu près. Voilà le reste, 5,4%, dans lequel vous voyez les sciences de la vie, ici en tête, avec 1 500 000 euros, comparé aux 50 millions d'euros ou 60 millions d'euros. Actuellement, le taxotaire a rapporté au CNRS plus de 250 millions d'euros. Voilà, je crois que je voulais défendre un petit peu la chimie, j'espère que ça vous a amusé.